Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
L'existence de cette bibliothèque clandestine était connue en haut lieu, mais nous n'avions jamais réussi à la repérer. Je n'ai vu qu'une fois dans ma vie une telle quantité de livres. C'était encore tout au début de ma carrière. Je n'avais même pas le droit de me servir du lance-flamme. Et tout ça est à nous, mon Dag.
Ça peut pas faire de mal.
Les livres n'ont rien à nous dire. Ah, le rayon des Roms. Ils ne parlent que de gens qui n'ont jamais existé. Ils donnent à ceux qui les lisent le dégoût de leur propre vie et la tentation de vivre une existence impossible. Alors, il faut brûler les livres, Montag.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Depuis les 400 coups, je voulais faire un film où les livres seraient les héros de mon propos. Un producteur m'a parlé du livre de Ray Bradbury. Mais à l'époque, je détestais la science-fiction. Je trouvais que faire de la science-fiction, c'était manquer d'imagination. Alors il m'a raconté l'histoire en trois phrases. Une société où il est interdit de lire, où l'on brûle les livres quand on les découvre, et le final de l'œuvre avec les hommes livres, des intellectuels qui ont décidé de sauver la culture en apprenant les livres par cœur. Dès cet instant, j'étais décidé, je ferai Fahrenheit 451. Il m'a fallu 4 ans pour arriver au bout de mes peines. Nous étions vraiment dans un film où les personnages principaux sont les livres. Donc tout le travail était d'animer le plus possible, de rendre vivants ces livres avant de les faire mourir. Alors on a passé beaucoup de temps là-dessus pour montrer les pages qui se tordent, se recroquevillent, qui noircissent. Et on s'est aperçu que c'est d'ailleurs très difficile de brûler des livres. Certains refusaient carrément de brûler. Et puis d'autres nous ont donné de bonnes surprises. Par exemple, certains dont les pages se sont franchement décollées et recroquevillées comme une série de coquilles. C'était superbe, une grande joie. Sur le dernier incendie de livre, je crois qu'on peut lire les lignes en même temps qu'elles brûlent. Et d'après ces lignes, on peut savoir de quel livre il s'agit. On voit par exemple « Miss Blandish mit son chandail » ou « Les frères Karamazov descendirent l'escalier ». Il y a aussi des auteurs que je ne pouvais pas ne pas citer parce que je les adore, comme Audi Berti ou Genet. Je n'ai jamais fait un film aussi difficile. Autour de moi, toute l'équipe était un peu déroutée. Ils devaient s'attendre à du super James Bond, mais il n'y avait pas de gadget. J'ai tenté d'être réaliste dans le scénario et onirique au tournage, en créant dans chaque scène, même normale, un déséquilibre, un malaise, une instabilité dont Hitchcock est le maître et dont il nous a appris le secret. Si à l'arrivée le film ressemble à un rêve, c'est tant mieux. Ce n'est pas un rêve, mais un cauchemar éveillé que je vous invite à vivre ce soir en plongeant dans l'univers inquiétant d'un chef-d'œuvre de la science-fiction, Fahrenheit 451, de l'écrivain américain Ray Bradbury. Publié en 1953, le roman est adapté au cinéma par François Truffaut, que je viens de citer. Le film sort en 1966 avec Julie Christie et Oscar Werner. C'est alors son 5e film et le premier en couleur. Dans un futur proche, un gouvernement interdit les livres et les brûle. Toute activité culturelle, artistique est considérée comme dangereuse, nuisible au bien-être individuel et à l'ordre social. Mais s'agit-il seulement d'une projection dans l'avenir ? Écrit 20 ans après les autodafés nazis, le roman ne nous met-il pas en garde contre le passé qui peut ressurgir ? Dans une interview, Ray Bradbury affirmait à ce propos, je cite, « La science-fiction n'est pas irréelle. La science-fiction est une description de la réalité. » Ouvrons ce livre brûlot qui n'a jamais été aussi lucide, tant sur la place des écrans dans nos vies que sur le vide intérieur des êtres. Une leçon de courage qui dit l'urgence de lire, de penser contre la censure. Une leçon d'humilité aussi pour sauver les livres de l'oubli. Ouvrons la première page du roman et laissons-nous subjuguer par le spectacle. Le héros, Guy Montag, est pompier à la fameuse brigade 451, celle qui intervient sur dénonciation pour brûler les maisons où se trouvent encore de dangereuses armes, des bibliothèques clandestines. Sûr de son bon droit, Montag apparaît dans la toute-puissance de ses fonctions. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. les poings serrés sur l'embout de cuivre armé de ce piton géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre dirigeant toutes les symphonies en feu major pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire, il actionna l'igniteur et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles. Il aurait surtout voulu, conformément à la vieille plaisanterie, plonger dans le brasier une boule de guimauve piquée au bout d'un bâton, tandis que les livres, comme autant de pigeons battant des ailes, mourraient sur le seuil et la pelouse de la maison, tandis que les livres s'envolaient en tourbillon d'étincelles avant d'être emportés par un vent noir de suie. Montag arbora le sourire féroce de tous les hommes roussis et repoussés par les flammes. Il savait qu'à son retour à la caserne, il lancerait un clin d'œil à son reflet dans la glace. Plus tard, au bord du sommeil, dans le noir, il sentirait ce sourire farouche toujours prisonnier des muscles de son visage. Jamais il ne le quittait, ce sourire. Jamais au grand jamais, autant qu'il s'en souvint.
Montag, c'était quel genre de bouquin? J'ai à peine regardé, il y avait un peu de tout, oui. Des romans, des biographies, des récits de voyage.
Comme d'ordinaire, oui.
Pourquoi lisent-ils? Quelle perversité! À propos... Comment Montag occupe-t-il ses heures de loisirs?
À bien peu de choses, mon jardin.
Et si on ne vous le permettait pas?
Je le laisserai en friche.
Excellent. Une réponse qui me permet de vous apprendre une nouvelle réjouissante. Bénédicte va être mis hors cadre d'ici peu de temps. Et votre nom a été plusieurs fois prononcé.
Une promotion?
Je savais que cette nouvelle vous serait agréable.
Mais tard dans la nuit, le héros n'est plus si sûr de lui. Retrouvons Montag quelques heures après avoir accompli son devoir. À peine sorti de la caserne, il semble un autre homme. Il ne sait pas encore qu'il va faire une rencontre décisive. Les nuits précédentes, alors qu'il regagnait sa maison sous le ciel étoilé, il avait éprouvé une sensation des plus bizarres à cet endroit précis, là où le trottoir tournait. Mais ce soir-là, il ralentit jusqu'à pratiquement s'arrêter. Son mental avait perçu un souffle à peine audible. Un bruit de respiration? Ou l'air était-il comprimé par la seule présence de quelqu'un qui se tenait là, dans le plus profond silence, aux aguets? Il tourna l'angle. Les feuilles d'automne voltaient au ras du trottoir baigné de lune, donnant l'impression que la jeune fille qui s'y déplaçait, comme fixée à un tapis roulant, se laissait emporter par le mouvement du vent et des feuilles. Elle avait un visage menu, d'un blanc laiteux, et il s'en dégageait une espèce d'avidité sereine, d'inlassable curiosité pour tout ce qui l'entourait. Ses yeux sombres se fixaient sur le monde avec une telle intensité que nul mouvement ne leur échappait. Sa robe blanche froufroutait. Il crut presque entendre le balancement de ses mains tandis qu'elle avançait, puis ce son infime, l'éclair blanc de son visage qui se tournait au moment où elle découvrit, planté au milieu du trottoir, tout près, un homme qui attendait. « Vous êtes nouvelle dans le voisinage, n'est-ce pas ? » dit-il dans un signe de salut. « Et vous devez être le pompier, » répondit-elle en détachant ses yeux de ses insignes professionnels. « Vous avez dit ça d'une drôle de voix. »«
Je l'aurais deviné les yeux fermés. »«
Ah, l'odeur du pétrole, ma femme s'en plaint tout le temps, » dit-il en riant. Il avait l'impression qu'elle tournait autour de lui, l'examinant sur toutes les coutures, sans qu'elle eût à effectuer le moindre mouvement. Elle regarda ensuite le trottoir dans la direction de leur maison.
« Ça ne vous dérange pas si je m'en retourne avec vous ? Je m'appelle Clarisse McLellan. »
Clarisse, Guy Montag, allons-y. Qu'est-ce que vous fabriquez dehors à une heure aussi tardive ? Quel âge avez-vous ? Ils avançaient sur le trottoir argenté dans la nuit où soufflait à la fois le chaud et le froid. Un soupçon d'abricot et de fraises fraîchement cueillis flottait dans l'air. Il regarda autour de lui et se rendit compte que c'était absolument impossible à une époque aussi avancée de l'année.
« Eh bien, dit-elle, j'ai 17 ans et je suis folle. » Mon oncle affirme que les deux vont toujours ensemble. N'est-ce pas agréable de se promener à cette heure la nuit? J'aime humer les choses, regarder les choses. Et il m'arrive de rester toute la nuit debout à marcher et de regarder le soleil se lever.
Ils firent quelques pas en silence et elle déclara enfin pensive.
Vous savez, je n'ai pas du tout peur.
La phrase le surprit. Pourquoi auriez-vous peur?
Tant de gens ont peur. Peur des pompiers, je veux dire. Mais vous n'êtes qu'un homme après tout. Son visage, désormais tourné vers lui, était un bloc de cristal laiteux, fragile, d'où sourdait une lueur douce et continue. Ce n'était pas la lumière hystérique de l'électricité, mais quoi ? La flamme étrangement reposante, rare et délicatement intentionnée de la bougie. « Permettez que je vous pose une question, » dit alors Clarisse. « Depuis combien de temps êtes-vous pompier ?»«
Depuis l'âge de 26 ans, ça fait 10 ans. »«
Vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez ?»
Il éclata de rire.
« C'est contre la loi. Le lundi, brûle Millet, le mercredi, Whitman, le vendredi, Faulkner, réduis-les en cendres et puis brûle les cendres. »
C'est notre slogan officiel.
Ils firent encore quelques mètres et la jeune fille demanda « C'est vrai qu'autrefois, les pompiers éteignaient le feu au lieu de les allumer. J'ai entendu dire qu'il était courant que les maisons prennent feu par accident et qu'on avait besoin des pompiers pour éteindre les incendies. »
Il s'esclaffa.
J'ignorais ça.
Ils reprirent leur marche. Puis il s'arrêta et la dévisagea.
Vous alors, vous êtes un sacré numéro.
Elle sourit puis murmura. Je parie que je sais autre chose que vous ignorez. Il y a de la rosée sur l'herbe le matin.
Voilà qu'il ne se rappelait plus s'il savait cela ou non, et il éprouva une vive irritation.
« Et si vous regardez bien, » dit-elle en levant la tête au ciel, « on distingue le visage d'un bonhomme dans la lune. » Il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas regardé de ce côté-là.
Le reste du trajet se passa en silence. Silence pensif pour elle, silence crispé et gêné pour lui.
Ils atteignirent la maison de Clarisse. Toutes les fenêtres étaient allumées.
« Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Montague, qui n'avait jamais vu une telle débauche d'éclairage dans une maison.
« Oh, simplement mon père, ma mère et mon oncle qui sont là en train de bavarder. Oh, nous sommes des gens très bizarres. »«
Mais pourquoi parlez-vous donc ?»
Elle répondit par un éclat de rire. « Bonsoir. » Et elle s'engagea dans l'allée. Puis elle parut se souvenir de quelque chose, revint sur ses pas et posa sur lui un regard plein d'étonnement. « Est-ce que vous êtes heureux ? » fit-elle.
« Est-ce que je suis quoi ? »
s'écria-t-il.
Mais elle était déjà partie, courant dans le clair de lune. Sa porte d'entrée se referma doucement.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire. Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence? Et quand finit l'indifférence, passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes, laisse de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Dites-moi, ce numéro que vous portez, ça veut dire quoi?
Fahrenheit 451.
Ray Bradbury.
I got curious at what temperature.
J'étais curieux de savoir à quelle température les pages des livres s'enflammaient et brûlaient. J'ai alors contacté le département de chimie de l'Université de Californie à Los Angeles et ils l'ignoraient. Alors je me suis dit, imbécile, appelle donc les pompiers. J'ai donc appelé le chef des pompiers du centre de Los Angeles et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me dire à quelle température brûlent les livres ? Il m'a répondu « Attendez, je reviens tout de suite ». Et en revenant, il m'a répondu que les livres s'enflammaient et brûlaient à 451 degrés Fahrenheit. Et je me suis dit « C'est bon ». J'ai alors corrigé le titre de mon livre.
Les jours suivants, Montag revoit souvent la belle Clarisse au détour d'une rue ou à la sortie d'un métro. Hélas, la parenthèse poétique se referme bientôt. Deux semaines plus tard, la mystérieuse jeune fille a disparu avec toute sa famille, coupable d'entretenir une vie normale, nourrie de lectures et de conversations. Harcelé par Betty, son chef de service, et menacé par un énorme chien robot programmé pour tuer, le pompier Montag est envoyé sur une nouvelle mission. Ils enfoncèrent la porte d'entrée et empoignèrent une vieille femme qui pourtant ne courait pas, n'essayait pas de s'enfuir. Elle se tenait simplement debout, se balançant d'un pied sur l'autre, les yeux fixés dans le vide, face au mur, comme si on lui avait asséné un coup terrible sur la tête. On aurait dit que ses yeux essayaient de se rappeler quelque chose. Puis la mémoire lui revint et sa langue se remit en mouvement. Elle récita « Soyez un homme, maître Ridley. Nous allons, en ce soir, par la grâce de Dieu, allumer en Angleterre une chandelle qui ne s'éteindra jamais. » Cette flamme, c'était celle de l'Inquisition. « En voilà assez !» cria Betty. « Où sont-ils ? » Il la gifla avec un incroyable détachement et répéta sa question. Les yeux de la vieille femme se concentrèrent sur lui. « Vous savez où ils sont, sinon vous ne seriez pas là, » dit-elle. Un pompier brandit la carte d'alarme téléphonique au dos de laquelle figurait la copie de la dénonciation. « Dans le grenier, très bien les gars, au boulot !» ordonna Betty. En un clin d'œil, ils étaient là-haut dans une obscurité qui empestait le moisi, abattant leur hache argentée sur des portes qui n'étaient même pas fermées. S'engouffrant dans les brèches comme des gamins chahuteurs et criards. « Hé, là !» Une cascade de livres s'abattit sur Montag, tandis qu'il gravissait, parcouru de frissons, l'escalier en pente raide. Jusque-là, ça n'avait jamais été plus compliqué que de moucher une chandelle. La police arrivait d'abord, bâillonnait la victime au ruban adhésif et l'embarquait pieds et poings liés dans ses taxis coccinelles jaunes, de sorte qu'en arrivant, on trouvait une maison vide. On ne faisait de mal à personne, on ne faisait du mal qu'aux choses. Contrairement à cette femme qui risquait de se mettre à hurler et à se plaindre, rien ne venait tourmenter votre conscience par la suite. Ce n'était que du nettoyage. Mais ce soir, quelqu'un avait perdu les pédales. Cette femme gâtait le rituel. Les hommes faisaient trop de bruit, riant et plaisantant pour couvrir son terrible silence accusateur. Là-haut, les pompiers lançaient dans l'air poussiéreux des pelletées de magazines qui s'abattaient comme des oiseaux massacrés, tandis qu'en bas, telle une petite fille, la femme restait immobile au milieu des cadavres. Montag en éprouvait une immense irritation. Des livres lui dégringolaient sur les épaules, les bras, le visage. Un volume lui atterrit dans les mains, presque docilement. Dans la pénombre, tremblotante, une page resta ouverte. Montag n'eut que le temps d'en lire une ligne, mais elle flamboya dans son esprit. Le temps s'est endormi dans le soleil de l'après-midi. Il lâcha le livre. Aussitôt, un autre lui tomba dans les bras. La main de Montag se referma comme une bouche, écrasa le livre avec une ferveur sauvage, une frénésie proche de l'égarement contre sa poitrine. Il n'y était pour rien. C'était sa main qui avait tout fait, qui s'était transformée en voleuse. Voilà qu'elle fourrait le livre sous son bras, le pressait contre son aisselle en sueur et ressurgissait, vide, avec un geste de prestidigitateur. Admirez le travail, l'innocence même. Regardez.
Montag, ne restez pas là, idiot, cria Betty.
Il sursauta. « Pétrole, vite !» Ils se mirent à pomper le liquide froid au réservoir numéroté 451 fixé à leurs épaules. Ils aspergèrent chaque livre, inondèrent toutes les pièces. Ils se précipitèrent en bas, Montag titubant à leur suite dans les vapeurs de pétrole. « Vous n'aurez jamais mes livres !» dit la femme.
« Vous connaissez la loi ?» reprit Betty. « Les gens qui sont dans ces bouquins n'ont jamais existé. Allez, suivez-nous !»
Elle secoua la tête.
« Toute la maison va sauter !» menaça Betty.
« Vous n'allez pas la laisser ici, » protesta Montag.
« Emmenez-la de force !»
Montag posa une main sur le coude de la femme, mais elle se refusa de bouger.
« Je compte jusqu'à 10, » dit Betty. « 1, 2, 3.
« Allez-vous-en, » dit la femme.
« 3, 4, 5.
Vous pouvez vous arrêter de compter, » dit-elle. Elle déplia légèrement les doigts d'une main et dans sa paume apparut un petit objet effilé, une simple allumette de cuisine. À sa vue, les hommes se ruèrent hors de la maison. Dans l'encadrement de la porte, le visage rose de Betty trahissait à présent un début de panique. Montag sentit le livre qu'il cachait battre comme un cœur contre sa poitrine. « Allez-vous-en !» répéta la femme. Et Montag eut vaguement conscience qu'il reculait, s'éloignait, franchissait la porte à la suite de Betty. Sur le perron où elle s'était avancée pour les soupeser tranquillement du regard, la femme se tenait immobile. Betty pointa son igniteur pour mettre le feu à la maison. Trop tard, Montag étouffa un cri. La femme tendit le bras, les enveloppant tous de son mépris, et gratta l'allumette contre la balustrade. C'est une longue nuit qui commence pour Montag. De retour chez lui, le héros est pris d'une crise de conscience. Sa femme, Mildred, a failli mourir quelques jours auparavant d'une overdose de médicaments. Mais depuis longtemps, elle vit comme repliée sur elle-même. La nuit, elle porte des coquillages, sortes de dés de latex enfoncés dans les oreilles. Ce sont les ancêtres de nos iPods et écouteurs. Le jour, elle écoute la radio ou regarde la télévision diffusée sur des murs écrans qui crachent de la musique et des programmes non-stop.
993 kg de livres et brochures courantes, 450 kg de livres de luxe et reliés, ainsi que 23 piles de manuscrits ont pu être anéantis. 30 individus notoirement antisociaux ont été arrêtés pour subir une rééducation.
Cette nuit-là, bouleversée par la mort de la vieille femme et par le livre qu'il a volé, Montag tente une dernière fois de communiquer avec sa femme. Tard dans la nuit, il se tourna vers Mildred. Elle ne dormait pas. Une mélodie ténue dansait dans l'air. Son coquillage de nouveau enfoncé dans l'oreille, elle écoutait les personnages lointains en des lieux lointains, les yeux grands ouverts, fixés sur les ténébreuses profondeurs du plafond. Pourquoi ne s'achetait-il pas un mini-émetteur pour parler à sa femme au milieu de la nuit, murmurer, chuchoter, crier, hurler, beugler? Mais que chuchoterait-il? Que hurlerait-il? Que pouvait-il dire? Et soudain, elle lui devint si étrangère qu'il eut du mal à croire qu'il la connaissait. Il eut l'impression qu'il se trouvait dans une maison qui n'était pas la sienne. « Millie, » dit-il à voix basse, « excuse-moi de te déranger, je voudrais seulement savoir... »« Quoi ?» protesta-t-elle. « Quand est-ce qu'on s'est rencontrés ? Et où ? Quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour quoi faire ? Je veux dire, pour la première fois. » Il savait qu'elle devait froncer les sourcils dans le noir. Il précisa sa pensée. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était où et quand ?
Je sais pas.
Il était frigorifié. Tu ne t'en souviens pas ?
Ça fait tellement longtemps.
10 ans seulement, c'est tout.
10 ans.
Il lui importait soudain, plus que toute autre chose au monde, de savoir où il avait rencontré Mildred. Elle était dans la salle de bain à présent. Il entendit l'eau couler et le bruit de la déglutition qui s'ensuivit. Il essaya de compter combien de fois elle avalait et il eut envie de lui lancer « Combien as-tu pris cette nuit de ces comprimés ? Combien vas-tu en prendre sans t'en rendre compte ?» Et il la revit gisant sur le lit, les deux infirmiers debout au-dessus d'elle, et il se souvint d'avoir pensé que si elle mourait, il ne verserait pas une larme, sûr et certain. Car ce serait pour lui la mort d'une inconnue, d'un visage croisé dans la rue, d'une photo aperçue dans le journal. Et soudain, il y avait là une telle aberration qu'il s'était mis à pleurer, non devant la mort, mais à l'idée de ne pas pleurer devant la mort.
pauvre idiot vide, près de cette pauvre idiote tout aussi vide. Comment devient-on aussi vide ? Se demanda-t-il. Qui fait ainsi le vide en nous ? Le lendemain matin, Mildred redisparut dans le salon à l'écoute de ses murs écrans. Il l'entendit chantonner. « Mildred ? » lança-t-il. Elle reparut, toujours en train de chantonner. « Tu veux pas me poser des questions sur ce qui s'est passé hier soir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a brûlé 1 000 000 de livres. On a brûlé une femme. Et alors ? On a brûlé des livres de Dante, de Swift, de Marc Aurel. C'était pas un extrémiste ? Ne crie pas. » Il s'était brusquement redressé dans le lit, furieux, congestionné, tremblant. « Si tu l'avais vue, Milly, cette femme ne représente rien pour moi. Elle n'avait qu'à ne pas avoir ses bouquins. C'était son affaire, je la déteste. Et si tu ne te lèves pas pour aller au travail, on va se retrouver sur le pavé, sans maison, sans travail, sans rien. Tu n'étais pas là, tu ne l'as pas vue. Il doit y avoir quelque chose dans les livres, des choses que nous ne pouvons pas imaginer pour amener une femme à rester dans une maison en flammes. On n'agit pas comme ça pour rien. C'était une simple d'esprit. Elle avait sa raison autant que toi et moi, plus peut-être, et on l'a brûlée. Et pour ce qui est de ce feu-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon Dieu, toute la nuit, j'ai essayé de l'éteindre dans ma tête. C'était à devenir fou. T'aurais dû réfléchir à ça avant de devenir pompier. Réfléchir ? Est-ce que j'ai eu le choix ? Mon père et mon grand-père étaient pompiers. Montag reprit. C'est pas seulement la mort de cette femme, Milly. Cette nuit, j'ai pensé à tout le pétrole que j'ai déversé depuis 10 ans. Et j'ai pensé aux livres. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que derrière chacun de ces livres, il y avait un homme. Un homme qui les avait conçus. Un homme qui avait mis du temps pour les écrire. Jamais cette idée ne m'était venue. Il sortit du lit. Si ça se trouve, il a fallu toute une vie à un homme pour mettre certaines de ses idées par écrit, observer le monde et la vie autour de lui. Et moi, j'arrive en 2 minutes et boum, tout est fini. Laisse-moi tranquille, protesta Mildred. Je n'ai rien fait. Te laisser tranquille, très bien, mais comment je fais pour me laisser tranquille ? Nous avons besoin de vrais tourments de temps en temps. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas vraiment tourmenté ? Pour quelque chose d'important, quelque chose d'authentique ? Puis il se tut, car il se souvenait de la semaine passée. Mildred partit en courant. Les voix glapissantes reprirent leur tapage dans le salon. Montag demeura immobile, les yeux plongés dans la froide blancheur du mur qui lui faisait face.
Ray Bradbury.
Well, we should learn from history.
On devrait retenir les leçons de l'histoire quand elles concernent la destruction des livres. Quand j'avais 15 ans, Hitler a fait brûler des livres dans les rues de Berlin. Et cela m'a terrifié parce que j'étais un bibliothécaire. Ça a marqué ma vie. Ces pièces de théâtre, toute cette formidable poésie, ces essais merveilleux, tous ces immenses philosophes. C'est devenu quelque chose de très personnel. Et j'ai découvert que la Russie brûlait les livres en coulisses, mais ils l'ont fait de telle façon que les gens ne l'ont pas su. Ils ont tué les auteurs en coulisses. Ils brûlaient les auteurs à la place des livres. Alors j'ai appris combien cela était dangereux. Parce que si vous n'avez pas les livres et la capacité de lire, vous ne pouvez pas faire partie de la civilisation. Vous ne pouvez pas faire partie de la démocratie.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Martin was a good boy. Wise and strong, and his heart was far too pure for this mean old world. Martin was a sailor, the secrets of the sea and pretty mermaids were dancing in his dreams. But he fell deeply in love with a rich girl called Ruth. She thought he had no education, no class, so he told himself, I'll turn into another man and I'll conquer her heart. In the ocean deep, do you rest in Canali. was the one who truly loved you. Martin studied night and day. He had no money, but his love for Ruth and his will to write kept him alive. Martin felt so lonely. No one trusted him, but he knew that one day he would succeed. After years and years of starving, fame and glory finally came. But it was too late, 'cause Martin didn't believe in anything nor anyone anymore. In the ocean deep, do you rest in peace? In the ocean deep, do you remember Lizzie Connolly? She was the one who truly loved you. Yes, she was the one who truly loved you.
Ici Caserne Redier, j'écoute.
Est-ce que je peux parler à...
Qui est à l'appareil?
C'est de la part du pompier Montag. Vous pouvez me passer le capitaine?
Un instant.
Ici le capitaine, j'écoute.
Je suis Linda Montag.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame?
Montag m'a chargé de vous dire qu'il est malade et obligé de garder la chambre.
Rien de grave, j'espère.
Non, non, capitaine, ce n'est pas très grave.
Je vous remercie de m'avoir prévenu. Meilleure santé pour lui.
Merci.
Mais le héros n'a pas le temps de se remettre de ses émotions. Beatty, le chef des pompiers, ne laisse aucun répit à son employé. Comme s'il avait deviné les intentions de Montag, il rend visite au malade et lui tient un long discours pour tenter de le remettre sur pied. Sous ses airs paternalistes, le capitaine en sait plus qu'il ne veut bien laisser paraître. Le pompier, toujours alité, dissimule tant bien que mal le livre volé dans son dos, sous son oreiller.
Quand est-ce que tout ça a commencé, vous m'avez demandé un jour, ce boulot qu'on fait, comment c'est venu, où, quand? Eh bien, je dirais que nous avons pris de l'importance avec l'apparition de la photographie, puis du cinéma, de la radio, de la télévision. On a commencé à avoir là des phénomènes de masse, et la population de doubler, tripler, quadrupler. Le cinéma et la radio, les livres se sont nivelés par le bas. Vous me suivez?
Je crois.
Imaginez le tableau. L'homme du 19e siècle avec ses chevaux, ses chiens, ses charrettes. Un film au ralenti. Puis au XXe siècle, on passe en accéléré, livre raccourci, condensé, digeste, abrégé. Tout est réduit au gag, à la chute. Et la politique, une colonne, deux phrases, un gros titre. La tête finit par vous tourner à un tel rythme sous le matraquage des éditeurs, diffuseurs, présentateurs.
Mildred s'approcha doucement de son mari. « Laisse-moi arranger ton oreiller, » dit-elle. « Non, » murmura Montag, « laisse-moi tranquille. »
La scolarité est écourtée, la discipline se relâche, on vit dans l'immédiat. Pourquoi apprendre quoi que ce soit quand il suffit d'appuyer sur des boutons? La vie devient un immense tape-cul, Montag.
Mais fiche-moi la paix, bon Dieu, s'écria Montag. Betty ouvrit de grands yeux. La main de Mildred s'était figée derrière l'oreiller. Ses doigts suivaient les contours du livre, et comme elle l'identifiait à sa forme, elle prit un air surpris, puis stupéfait. Va t'asseoir, à la fin, on est en train de causer, tonna Montag.
Beatty continua comme si de rien n'était. Presque invisible, il n'était plus qu'une voix derrière l'écran de fumée de sa pipe. « Vous aimez le baseball, n'est-ce pas, Montag ?»«
C'est un beau sport. »«
Davantage de sport pour chacun, esprit d'équipe, tout ça dans la bonne humeur et on n'a plus besoin de penser, non ?»« Plus d'images. L'esprit absorbe de moins en moins et voilà, Montag, la technologie, l'exploitation de la masse et le tour était joué, Dieu merci. »«
Oui, mais les pompiers dans tout ça ?» demanda Montag.
J'y viens. Dans notre société, chaque homme doit être l'image de l'autre. Comme ça, tout le monde est content. Conclusion, un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté. Brûlons-le. Battons en brèche l'esprit humain. Qui sait qui pourrait être la cible de l'homme cultivé? Ainsi, les pompiers se sont vus assigner une nouvelle tâche, la protection de la paix de l'esprit. Voilà ce que vous êtes, Montag, et ce que je suis. Posez-vous la question. Qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout dans ce pays? Les gens veulent être heureux, d'accord? Eh bien, ne le sont-ils pas? Ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement? À ce qu'ils aient des distractions? Beatty se leva. Bon, faut que j'aille. J'espère avoir clarifié les choses. L'important pour vous, Montag, c'est de vous souvenir que nous sommes les garants du bonheur. Vous, moi et les autres. Tenons bon. Ne laissons pas le torrent de la mélancolie et de la philosophie débilitante noyer notre monde. Nous dépendons de vous. Beatty serra la main molle de Montag. Celui-ci était toujours dans son lit, comme si la maison était en train de s'effondrer autour de lui, sans qu'il puisse bouger. Mildred avait disparu. « Un dernier mot, » dit Beatty. « Une fois au moins dans sa carrière, tout pompier ressent une démangeaison. Qu'est-ce que racontent les livres ?» se demande-t-il. « Ah, cette envie de se gratter, hein ?» Eh bien, Montag, croyez-moi sur parole, il m'a fallu en lire quelques-uns dans le temps pour savoir de quoi il retournait. Il ne raconte rien. Si ce sont des romans, il parle d'êtres qui n'existent pas, de purs produits d'imagination, on en sort complètement déboussolé. Et maintenant, que se passe-t-il si un pompier, par accident, sans intention vraiment précise, ramène un bouquin chez lui? Ah, Montag tiqua. La porte ouverte fixait sur lui son grand œil vide. Erreur bien naturelle, simple curiosité, poursuivit Beatty. On va pas s'inquiéter outre mesure. On laisse le pompier garder le livre 24 heures. Si passé ce délai, il ne l'a pas brûlé, on vient simplement le brûler pour lui.
Bien entendu. Montag avait la bouche sèche.
Eh bien, Montag, vous prendrez votre service un peu plus tard aujourd'hui, n'est-ce pas?
Montag ferma les yeux. « Jamais je ne retournerai là-bas, » se dit-il.
« À ce soir, et c'est un ordre !» lança Beatty.
Puis il tourna les talons et s'éclipsa par la porte grande ouverte. Mais le soulagement est de courte durée. Et le capitaine des pompiers ne tarde pas à mettre sa menace à exécution. Bientôt le destin du héros bascule. À peine rétabli, Montag rend visite à un vieil homme lettré dénommé Faber, l'un des derniers lecteurs qu'il avait rencontré un an plus tôt. Le pompier l'exhorte à la révolte, mais le vieillard sent ses forces décliner. L'homme lui propose cependant de rester en contact avec lui par l'intermédiaire d'une petite oreillette. Le plan de Montag est radical, mettre le feu à toutes les casernes. Mais lorsqu'il arrive à sa brigade, une nouvelle alerte retentit. Son chef Beatty, toujours accompagné de son chien robot, l'embarque de force en mission. Aveuglé par la colère, Montag ne reconnaît pas l'adresse à laquelle le convoi se rend. La porte d'entrée s'ouvrit, Mildred dévala les marches chargée d'une valise qu'elle tenait avec une rigidité somnambulique, tandis qu'un taxi coccinelle s'arrêtait dans un sifflement le long du trottoir. Mildred ? Elle passa à toute allure devant lui, raide comme un piquet, le visage enfariné, les lèvres pincées, murmurant « tout est fini à présent ». Mildred, ce n'est quand même pas toi qui as donné l'alarme ? Beatty agrippa l'épaule de Montag au moment où le taxi démarrait en trombe et disparaissait au bout de la rue.
« Eh bien, tu as gagné. Notre bon vieux Montag a voulu voler près du soleil et maintenant qu'il s'est brûlé les ailes, il se demande comment c'est arrivé. Les autres meurent, mais pas moi, n'est-ce pas Montag ?»
Il eut un fracas pareil à l'éclatement d'un rêve composé de vitres, de miroirs et de prismes de cristal distordus. Montag pivota comme sous l'effet d'un nouvel orage incompréhensible et vit ses collègues qui brandissaient des haches, faisaient voler les carreaux en éclats pour créer des courants d'air.
« Montag, ici Faber, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe ?»«
Voilà que c'est à mon tour d'y passer, » murmura Montag.
« Quelle horreur, Montag! Pouvez-vous vous échapper, vous enfuir ?»«
Non, » s'écria-t-il au désespoir. « Un chien robot ne me quitte pas d'une semelle. » Beatty alluma son igniteur et la petite flamme orange attira le regard fasciné de Montag. Mildred, bien sûr. Elle avait dû le regarder cacher les livres dans le jardin et les avait rapportés. Mildred. Mildred.
Je veux que tu fasses ce boulot tout seul, Montag. Pas avec du pétrole et une allumette, mais morceau par morceau, au lance-flamme. C'est ta maison, à toi de faire le ménage.
Il libéra le cran de sûreté du lance-flamme et le tendit à Montag.
Prêt ? Feu !
Une énorme goutte de lave en fusion déferla sur les livres, les projetant contre le mur. Il pénétra dans la chambre, cracha deux giclées de feu et les liés jumeaux s'embrasèrent dans un monstrueux grésillement, avec plus de chaleur, de passion et d'éclat qu'il ne leur en aurait supposé. Il brûla les murs et la coiffeuse parce qu'il voulait tout changer. Les sièges, les tables, tout ce qui montrait qu'il avait vécu dans cette maison vide, en compagnie d'une étrangère, qu'il oublierait demain, qu'il l'avait déjà pratiquement oublié, ses coquillages radio déversant leur éternelle bouillie dans ses oreilles, tandis qu'elle roulait dans la ville, isolée du monde. Et comme avant, c'était bon de répandre l'incendie. Il avait l'impression de s'épancher dans le feu, d'empoigner, de déchirer, de faire éclater sous la flamme l'absurde problème. Le feu était la panacée. « Les livres, Montag !» Et les livres de sautiller et de danser comme des oiseaux rôtis, des plumes rouges et jaunes embrasant leurs ailes. Puis il arriva au salon où les grands monstres stupides dormaient. Il arrosa chacun des trois murs aveugles et le vide se rua vers lui dans un sifflement, un hurlement insensé. Il retint sa respiration pour empêcher le vide de pénétrer dans ses poumons. Puis il recula et gratifia toute la pièce d'une énorme fleur jaune incendiaire. Le revêtement de plastique ignifugé se fendit et la maison se mit à frémir sous l'effet des flammes. « Quand tu auras fini, » dit Bitsy derrière lui, « considère-toi en état d'arrestation. » Montag était incapable de bouger. Un terrible tremblement de terre s'était joint au feu pour raser la maison. Mildred était quelque part sous les ruines, ainsi que toute son existence, et il était incapable de bouger. « Montag, fichez le camp, » dit Faber. Montag pencha la tête, tendit l'oreille. Bitty lui asséna soudain un coup sur le crâne qui le fit trébucher en arrière. Le coquillage vert dans lequel la voix de Faber murmurait ses adjurations tomba sur le trottoir. Bitty s'en empara, un grand sourire aux lèvres, et il l'approcha de son oreille. « Eh bien, ça va plus loin que je ne pensais. Je t'ai vu pencher la tête, l'air d'écouter quelque chose. On va remonter à la source et coincer ton petit copain ?»« Non, » fit Montag. Il libéra à nouveau le cran de sûreté du lance-flamme. Le regard de Bitty se fixa aussitôt sur les doigts de Montag, qui baissa lui-même les yeux sur ses mains pour voir ce qu'elles avaient encore fait. En y repensant plus tard, il ne parvint jamais à décider si c'était ses mains ou la réaction de Bitty à leur mouvement qui lui avait donné le coup de pouce final sur la voie du meurtre. Bitty arbora son sourire le plus charmeur. « Pourquoi ne pas me sortir du Shakespeare, pauvre snobinard d'opérette ?» « Je ne crains pas tes menaces, Cassius, car ma probité me fait une telle armure. Qu'en dis-tu ? Allez, vas-y, littérateur d'occasion, presse la détente. » Il fit un pas vers Montag sans se départir de son sourire. « Allez, donne-moi ça, Guy !»
Montag a été condamné à mort. Nous faisons appel à tous les citoyens pour nous aider à le trouver. Que chacun se tienne sur le pas de sa porte. Écoutez et regardez. Le criminel est seul et à pied. Son nom est Montag.
Afro-Bell. Cervantes. Okay. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern. Mary Wollstonecraft.
Vindicated.
Jane Austen.
Here I am.
Sir Walter Scott.
Rolu.
Leo Tolstoy.
Yes!
Honoré de Balzac.
Oui.
Edgar Allan Poe. Charlotte Bronte.
Hello?
Emily Bronte.
Hello, Mr. James.
D.H. Lawrence.
Never heard of it.
E.M. Forster.
Never heard of it.
Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I want to live today.
James Joyce. Doris
Nicholas Lessing. Vladimir Nabokov.
Hello, little girl.
William Golding. J.G. Ballard.
Instrument vehicle.
Richard Brautigan.
How do you do?
Martin Davis. Brett Easton Ellis. Umberto Eco.
I don't understand this either.
Gabriel Garcia Marquez.
Mikasa Dukasa.
Roddy Doyle. Salman Rushdie.
Name live forever.
Nous approchons de la fin du roman. Meurtrier, hors la loi, Montag est poursuivi par le terrible chien robot et par une armée de soldats. La scène est filmée par hélicoptère et retransmise en direct dans les foyers. Montag se réfugie un instant chez Faber, son complice, qui lui indique la direction à prendre, quitter la ville, traverser le fleuve, suivre la voie ferrée abandonnée. Là-bas, de l'autre côté de la rive, des campements nomades se sont constitués. Ils rassemblent les derniers intellectuels qui ont fui la société et ont entrepris de sauver les livres en les apprenant par cœur. À bout de souffle, mais sain et sauf, Montag parvint à destination. Au milieu de la forêt, il est accueilli par un certain Granger, le chef de la communauté des hommes livres. Je tiens à vous présenter Jonathan Swift, l'auteur de cet ouvrage politique si néfaste, Les voyages de Gulliver. Et cet autre est Charles Darwin, et celui-ci Schopenhauer, et celui-ci Einstein. Nous sommes tous là, Montag. Aristophane, le Mahatma Gandhi, Bouddha, Confucius, Jefferson et Lincoln, s'il vous plaît. Nous sommes aussi Mathieu, Marc, Luc et Jean. Et tout le monde de rire en sourdine. Ça ne se peut pas, dit Montag. Mais si, répliqua Granger en souriant. Nous aussi, nous sommes des brûleurs de livres. Nous lisons les livres et les brûlons, de peur qu'on les découvre. Le mieux est de tout garder dans nos petites têtes, où personne ne peut rien voir ni soupçonner ce qui s'y trouve. Nous sommes tous des morceaux d'histoire, de littérature et de droit international. Byron, Tom Paine, Machiavel et le Christ, tout est là. Pour le moment, nous avons du sale boulot sur les bras. Nous attendons que la guerre finisse. Ça n'a rien d'agréable. Nous sommes la petite minorité qui crie dans le désert. Mais quand la guerre sera finie, peut-être serons-nous de quelque utilité en ce monde. Il se tenait désormais au bord du fleuve sous la lumière des étoiles. 5 heures du matin. Et l'aube qui attendait derrière l'autre rive du fleuve. Montag essayait de voir les visages de ces hommes, ces vieux visages aperçus à la clarté du feu, là et marqués de rides. Il était à la recherche d'une lueur de joie, de détermination, de triomphe sur le lendemain qu'il avait du mal à débusquer. Peut-être s'attendait-il à voir leurs traits rayonner du savoir dont ils étaient porteurs, briller comme brillent les lanternes de l'intérieur. Mais il n'était pas du tout sûr que ce qu'ils transportaient dans leur tête ferait briller chaque aube à venir d'une lumière plus pure. Il n'était sûr de rien, sinon que les livres étaient enregistrés derrière leurs yeux impassibles, qu'ils attendaient, intacts, les clients qui pourraient se présenter des années plus tard. Des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie qui porte 12 fruits et donne son fruit chaque mois. Et les feuilles de cet arbre sont pour guérir les nations. Oui, se dit Montag, l'Apocalypse de Jean, le livre qu'il avait volé et sauvé. Voilà ce que je vais retenir pour midi. Pour midi, quand nous atteindrons la prochaine ville.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Jean-Louis Deloncle à la technique. Elle a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée à l'écoute de France Inter et à la semaine prochaine.